vous à tout le monde une excellente première journée des pains sans levain. Il y a deux jours, on a célébré la Pâque de l'Éternel. Les baptisés ont alors réaffirmé leur engagement à suivre le Christ. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais que Dieu a appelés à la vérité, sont aussi importants à ses yeux que ceux qui ont pris la Pâque. Ceux-là vont la prendre plus tard. Ils sont en préparation. Et s'ils font de leur mieux pour apprendre à faire la volonté de Dieu, ils sont sous son aile et ils préparent le baptême qu'ils auront plus tard. Hier soir, tous les gens d'église, baptisés ou non baptisés, ont célébré cette formidable soirée qui est la soirée mémorable. Ça a été vraiment spécial, moi et mon épouse, on était bien sûr tous les deux. Mon épouse avait préparé une belle table et on a pu se rappeler des souvenirs des premières fêtes qu'on a observées, comment on est venu à l'église, ce qui se passe actuellement. Et ça a été vraiment spécial, encore là, tous les deux, devant Dieu. Alors, on a célébré, comme vous, cette soirée mémorable. Et ça, c'est un rappel que les Israélites ont pu sortir d'Égypte grâce à tous les miracles que Dieu a fait pour eux. Et pour nous, c'est un rappel que Dieu nous a appelés à sortir du monde moderne, à sortir de ses façons de faire, à se purifier pour devenir comme le Christ. Et en même temps qu'on a célébré hier soir la soirée mémorable, c'était le début du sabbat du premier jour des pains sans levain. Nous venons d'entrer dans le cycle annuel des sept fêtes établies par Dieu qui décrivent chacune des sept étapes de son plan. À cause des circonstances mondiales actuelles, notre célébration de ces fêtes, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça vous aussi, mais elle a été encore plus inspirante et plus significative. Même chose pour la fête des pains sans levain que nous célébrons. C'est encore plus spécial à cause de ce qui se passe dans le monde. Quand les Israélites ont entrepris leur cheminement pour sortir de l'Égypte, eux, c'était seulement sur le plan physique. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Nous, c'est sur le plan spirituel. Nous sommes encore dans l'Égypte spirituelle moderne, mais on doit en sortir en changeant. Et Dieu nous promet toute son aide pour qu'on soit capable d'y arriver. Aujourd'hui, nous sommes donc des Israélites spirituels. Et c'est pour ça que dans l'Église, il y a des gens de toutes les nations. Dieu est en train de former un petit peuple pour servir le Christ à son retour et pour être capable d'enseigner toutes les nations de la terre à ce moment-là. Mais nous avons le Saint-Esprit avec nous pour ceux qui sont appelés et qui ne sont pas encore baptisés. Et nous avons le Saint-Esprit en nous pour ceux d'entre nous qui sommes baptisés. Mais à nous tous, Dieu donne un ordre. Dieu donne l'ordre d'avancer spirituellement, de nous purifier de plus en plus avec son aide, de travailler à quoi? À vaincre nos faiblesses, à éliminer le mal de nos vies pour le remplacer par du bien, par l'aide de Dieu, selon ses promesses extraordinaires. Et c'est là la signification de la superbe fête des pains sans levain que nous commençons aujourd'hui. Et en cela, on doit devenir de plus en plus comme notre modèle parfait, comme notre héros, comme le Christ, qui lui est sans péché. On doit devenir comme lui et être des lumières dans le monde. Allez à Éphésiens, chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à vivre différemment d'avant et à vivre comme si le Christ vivait à votre place. Mais ça doit être le cas. Il doit vivre en vous ou avec vous, si vous êtes appelé mais pas encore baptisé, et en vous si vous êtes baptisé. Donc, vous devez devenir, comme lui, lumière du monde. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, ce que nous n'avions pas avant et ce que nous ne faisions pas avant, mais que nous pouvons faire par la force de Dieu. Et regardez le verset 15. Prenez donc garde. Donc il nous met en garde, il dit faites attention, afin de vous conduire avec circonspection avec sagesse. Non comme des insensés, mais comme des sages, comme quelqu'un qui connaît la vérité, qui sait de qui peut lui venir la force pour mieux agir et qui agit en conséquence. Racheter le temps. Donc, ça veut dire utiliser bien le temps que Dieu vous donne encore, le temps qu'il vous reste. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Je me rappelle avoir entendu ça il y a plusieurs années dans la bouche de Monsieur Appartient, parce qu'on allait vers les temps de la fin aussi, mais on n'était pas aussi proche que maintenant. Ça m'avait touché, ça m'avait frappé. Mais quand je relis ce passage-là, dans le contexte actuel du monde, ça a encore beaucoup plus de sens, d'importance et d'urgence. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est pour ça qu'au cours de la semaine, on va encore revoir, on va approfondir quelles sont ses lois, comment on doit agir pour lui plaire, pour justement faire sa volonté avec son aide. Et après, il donne un exemple, il y en a plusieurs autres qu'on pourrait donner, mais il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça ne veut pas dire qu'on peut en prendre, qu'on ne peut pas en prendre un tout petit peu avec modération, mais il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est une transgression carrée des lois de Dieu. C'est de mettre un autre Dieu devant sa face, une idole, c'est de l'idolâtrie en même temps. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Lorsqu'on transgresse les lois de Dieu, on est moins sous la puissance de son Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut éliminer ces choses-là et demander à Dieu d'agir en nous par son Esprit. Et après, vous pourrez lire le contexte un peu plus loin. Ça nous dit de nous encourager les uns les autres. Et je vois que ça se passe dans l'Église actuellement. Et ça, c'est formidable. Et ça nous dit aussi d'exprimer beaucoup de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est en train de faire pour nous et ce qu'il va faire très bientôt pour nous aussi. Je reviens à ça maintenant par rapport aux Israélites de l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, on continue à vivre physiquement dans l'Égypte, dans la société actuelle, pour le moment. Bientôt vient le temps où Dieu va amener en lieu de sécurité ses fidèles serviteurs pour terminer la préparation. Mais pour le moment, on vit au milieu de cette société mauvaise avec toutes les pressions que ça fait. Et c'est la volonté de Dieu, dans ce contexte-là, que nous développions son caractère. Et là, je précise une chose, et vous allez le comprendre. Dieu veut que dans les circonstances qu'on vit, on développe son caractère tout en étant à l'intérieur du monde, dans des circonstances adverses. Et il y a une raison pour ça. Je vais vous en parler. On est un peu dans la même situation, si vous voulez, que Daniel et ses amis à Babylone. C'était des serviteurs de Dieu, mais ils étaient dans un monde complètement païen, complètement détourné de Dieu. On est dans cette condition-là. Et c'est tellement encourageant de se rappeler la prière que le Christ a adressée à son Père avant de mourir. Vous pourrez aller la vérifier. Notez simplement la référence. Jean 17, verset 15 à 17. Jean 17, verset 15 à 17. Voyez ce que le Christ a dit à son Père, en parlant de ceux qu'il allait appeler au cours de l'histoire, et de nous aujourd'hui, qui sommes rendus à la fin de l'histoire. Il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » C'est pour ça que je vous dis, on est encore dans le monde, au milieu de cette société. « Mais de les préserver du mal. » Ça sous-entend, « Donne-leur ta force s'ils la demandent. » Et s'ils te cherchent de tout cœur, donne-leur la force de résister à Satan et à leurs pulsions contraires à tes lois. Il a continué en disant, ils ne sont pas du monde. Ça veut dire, ils ne font pas partie du monde. Et c'est pour ça la fête des pains sans levain, pour qu'on réalise qu'on ne doit pas faire partie de cette société et que les voies qu'on avait qui étaient de cette société, on doit les éliminer. Ils ne font pas partie du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Le Christ dit, comme moi, je ne fais pas partie de cette société-là. Alors, nous avons reçu l'ordre de nous développer spirituellement, comme un athlète qui se développe pour les Jeux olympiques, pratique, fait de nombreux sacrifices, laisse beaucoup de choses de côté pour atteindre son but. Il travaille à son but. Nous, on a reçu l'homme, de travailler à notre salut. Allez dans Philippiens, le chapitre 2, s'il vous plaît. Juste quelques pages plus loin, Philippiens, chapitre 2, et nous allons lire les versets 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, avec le grand respect qu'on doit au Tout-Puissant qui nous a appelés, qui nous a promis son aide, si nous la lui demandons et si nous faisons notre part, faire les efforts qu'on a à faire pour y arriver. Et ça, c'est le travail pour notre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. C'est pas une question de paraître devant les autres. C'est nous et Dieu, un peu comme on a fait à la Pâque, un peu comme on a fait au pain sans levain. Notre comportement de tous les jours, c'est nous avec Dieu. C'est pas question de paraître. C'est pas question de ce que les autres voient. On ne peut pas être hypocrite avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être avec lui de tout cœur. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Voici un passage tellement encourageant. C'est Dieu qui produit en vous et en moi de vouloir le faire, puis d'être capable de le faire. Ça, c'est une promesse qu'on peut lui rappeler si on a à cœur de faire sa volonté. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Après, il continue en disant ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Allez de l'avant. Ne critiquez pas. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Être la lumière du monde, comme le Christ a été la lumière du monde. C'est grand ce que Dieu nous donne de faire. Alors, travailler à notre salut, ça veut dire changer, mais par la puissance de Dieu. Trop souvent, on essaie de le faire par nous-mêmes. Il faut tout demander à Dieu. C'est une chose qu'il faut s'habituer à faire. Marcher avec Dieu, c'est être constamment proche de lui, constamment en contact avec lui. On peut le prier à genoux le matin et le soir et le midi, mais le reste de la journée, on peut, par notre pensée, lui demander son aide pour comprendre, pour agir de bonne façon, pour rester proche de lui. Alors, travailler à notre salut, c'est changer par la puissance de Dieu, marcher avec lui, développer son caractère, imiter le Christ dans les exemples qu'il nous a donnés, en nous comportant de plus en plus comme lui. Même si nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive, on ne comprend pas toujours ce qui arrive autour de nous, ou même ce qui nous arrive. Des fois, on ne comprend pas les raisons de ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive. Et c'est là qu'il nous faut faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui sait ce qui est le mieux pour nous. Même si on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, même si on ne comprend pas la situation, ni comment elle pourra se terminer. Il y a plusieurs situations qui arrivent, un problème qui se présente, qu'on se demande comment ça va finir. C'est là qu'il faut s'en remettre à Dieu, dire, tu as toute la sagesse, tu m'as appelé, tu m'as regardé jusqu'à maintenant, tu me montres encore plein de choses, tu m'encourages, aide-moi à aller de l'avant, à travailler à mon salut et à laisser le reste entre tes mains. Je sais que tu vas nous montrer, en temps et lieu, ce qu'on a à comprendre pour être capable d'aller plus loin. Je vais vous donner un exemple qui va nous aider à comprendre ce que je vous explique maintenant. Vous avez sûrement vu dans les journaux, à un moment donné, les petits jeux qu'on appelle le jeu de labyrinthe. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. En fait, c'est un dessin où il y a plusieurs chemins entrelacés. C'est un réseau de sentiers dont certains sentiers mènent nulle part. On arrive à un mur et d'autres sentiers débouchent sur d'autres sentiers qui peuvent avancer vers le but. Et le but, c'est de sortir du labyrinthe ou d'arriver à un jardin central, par exemple. Et c'est intéressant parce que ce jeu de labyrinthe-là, c'est aussi reproduit dans plusieurs parcs d'amusement au Québec. Peut-être d'ailleurs dans le monde aussi, mais je sais qu'au Québec, ça se fait. Ça devient un immense labyrinthe dans un champ de maïs. Vous avez peut-être déjà vu ça. Et le maïs, si vous êtes déjà allé dans un champ de maïs, ça peut avoir 2 à 3 mètres de haut. Alors, on ne voit pas plus loin que les murs de maïs chaque côté. Il y a un dessinateur ou un architecte qui conçoit le plan de ce labyrinthe-là dans un champ et il trace au sol les circuits qu'il va y avoir, les circuits qui mènent nulle part, les circuits qui sont compliqués, les circuits faciles, les circuits moins faciles. Et au printemps, il trace sur la terre les lignes à suivre et l'agriculteur sème le maïs selon ces lignes-là. Alors, tout ça pousse et rendu à l'automne, tout est prêt. Et au Québec, on en a un immense labyrinthe en Montérégie. Ça couvre 9 hectares, pour vous dire l'ampleur que ça a, 9 hectares. Ça, 9 hectares, ça correspond à 17 terrains de football. C'est grand. Et tout au long du parcours, quand on entre là-dedans, il y a des énigmes à comprendre. Il y a des petits écriteaux, il y a des énigmes qui sont données. Il y a des choses à découvrir en cours de route, à comprendre. Ce sont, si je compare ça à notre chemin spirituel, ce sont des révélations pour être capable d'aller plus loin dans la bonne direction. Ça demande de réfléchir, ça demande d'avoir de la circonspection, d'avoir de la sagesse, d'examiner les choses. Mais laissez-moi vous dire que quand vous êtes à l'intérieur du champ de maïs avec ces murs de maïs chaque bord, votre visibilité est pas extraordinaire. Parce que vous voyez seulement horizontalement. Alors, tout ce que vous voyez, c'est le maïs autour de vous. Vous voyez pas par-dessus. Vous n'avez pas du tout la vue d'ensemble. Dieu a la vue d'ensemble. Et c'est lui qui peut vous guider. Mais vous et moi, dans notre situation, on voit les murs, on voit les difficultés, les couloirs où on se demande où ça va nous conduire. Mais Dieu voit l'ensemble et Dieu conduit ses enfants au bon endroit. Mais nous, on voit horizontalement. Il y a des sentiers larges qui semblent aller en droite ligne vers le but, mais qui sont bloqués au bout. Quand vous êtes dans ce champ de maïs-là, il y a un sentier qui est large qui semble vous conduire à la bonne place, puis tout à coup, vous arrivez à un autre mur de maïs. Là, il faut revenir. Et il y a des sentiers qui vont en droite ligne, mais qui semblent plus faciles encore, sans qu'il y ait d'énigmes à comprendre, sans qu'il y ait d'efforts à faire, mais qui ne vont pas loin, qui sont des sentiers sans issue, qui mènent nulle part. Il y a des sentiers plus étroits, plus complexes, plus exigeants, mais qui permettent d'avancer, d'aller plus loin et de progresser vers la sortie des labyrinthes. Et il y a même parfois, comme c'est arrivé pour les Israélites, et comme ça arrive maintenant pour nous, et parfois il y a un sentier qui est un long détour, qui nous semble un long détour, mais qui nous mène vers l'objectif. Intéressant. Et je me rappelle ce que la Bible dit concernant la sortie des Israélites d'Égypte et le cheminement qu'ils ont fait après. En amenant les Israélites hors d'Égypte, Dieu les a conduits sur un chemin d'abord qu'ils ne connaissaient pas. Comme nous, quand il nous a appelés, on a commencé à vivre différemment. C'était un sentier qu'on n'avait jamais connu. Et maintenant, dans les événements qui se passent, c'est un sentier inconnu pour nous. Et on voit simplement horizontalement. On voit pas le plan que Dieu a à travers ça, par sa vue d'en haut. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les Israélites? Il les a conduits sur un chemin, bien sûr, qu'ils ne connaissaient pas et qui pouvait leur sembler tout à fait illogique, parce qu'il les a conduits par le chemin le plus long. Il les a pas conduits en droite ligne. Vous pourrez aller voir dans Exode 13, verset 18. Exode 13, verset 18 dit ceci. Dieu fit faire au peuple un détour. Il les a emmenés par un chemin beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Il devait simplement, à ce moment-là, faire ce que Dieu leur disait. Compter sur lui, faire ce qu'il disait, sans comprendre tout ce qui s'en venait et comment ça allait se terminer. Il fallait qu'ils se mettent dans le cœur que Dieu allait les amener à bon port. Même chose pour nous. Exactement. Il y a des grandes leçons là-dedans pour nous. Même chose pour nous, parce qu'on doit marcher en nouveauté de vie, pour commencer, dans un chemin qu'on connaissait pas. Et tout au long de notre cheminement jusqu'au retour de Christ, c'est qu'on doit vivre des expériences souvent inattendues. et on est au milieu du monde. Au milieu d'un monde qui est aujourd'hui complètement bouleversé et qui ne sait même pas lui-même où il s'en va. Alors, parfois, on doit vivre des expériences, et je devrais dire souvent, on doit vivre des expériences inattendues. Pas toujours explicables et pas toujours compréhensibles non plus sur le coup. Pourquoi ça arrive? Où est-ce que ça va nous mener? Mais ça doit nous mener à un endroit, toujours dans ces circonstances-là, devant le trône de Dieu, pour lui demander de nous donner d'être capable de continuer d'avancer selon les directives qu'il nous donne. Formidable. Comme j'ai mentionné au début du sermon, il y a 2 jours, on a eu l'immense bonheur de prendre la Pâque. Et si nous l'avons pris dignement, dans une attitude de désir réel, de changer complètement, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, nous continuons à être sous le sang du Christ, épargnés de la mort éternelle. Et avant la Pâque et avant le début des pains sans levain, on a étudié sur le sacrifice du Christ. On a lu sur le sacrifice du Christ et sur la fête des pains sans levain, sur notre responsabilité avec son aide de changer. Et c'est ce qu'on va faire au cours de la semaine des pains sans levain aussi. On va approfondir ces choses-là. On va centrer nos lectures, nos réflexions, nos prières là-dessus. C'est intéressant parce que j'ai reçu des commentaires intéressants des membres de l'Église sur ce qu'ils vivent. Certains m'ont dit, j'ai compris beaucoup plus cette année de choses que j'ai compris auparavant. Ça, j'ai entendu ça souvent cette année. Des membres qui m'ont dit, et vous allez vous en souvenir, certains d'entre vous qui m'avaient dit ça, Monsieur Brochu, cette année, je comprends des choses beaucoup plus qu'avant. Les mêmes choses que je disais ont beaucoup plus de signification. Ils s'adressent à moi. Et je me rends compte que j'ai changé des choses et que je vois plus les choses que je dois changer. Vous savez ce que c'est quand ça se produit, ça? Ce sont des fruits de l'esprit. C'est parce que l'esprit agit avec vous ou l'esprit agit en vous. C'est la manifestation directe de Dieu qui vous guide dans les labyrinthes de la vie ou dans les grands labyrinthes de la vie qui nous mènent vers le but. Vous savez une chose? La Pâque n'est valable que si nous travaillons à changer. C'est vrai. Sans ça, on la prend pour rien. La Pâque n'est valable que si nous travaillons à changer, que si nous déterminons de continuer à progresser graduellement dans nos rapports avec les autres pour améliorer les choses, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. Je vais plus loin. La Pâque, dans ce sens-là, c'est simplement obéir ou mourir éternellement. Aussi simple que ça. Pour ceux qui ont signé le contrat dans le sang de Christ. La part, il faut l'avoir avec la bonne attitude, sinon c'est obéir ou mourir éternellement, ou aller vers la mort éternelle si on ne se ressaisit pas pour revenir à temps. Et par les temps qui courent, c'est le temps de se réveiller. Réveillez-vous maintenant dans les temps où nous sommes. Pensez-y, si les Israélites n'avaient pas obéi, si les Israélites n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur le linteau et les poteaux de la porte de leur maison. Qu'est-ce qui serait arrivé cette nuit-là quand l'ange de la mort est passé? Ils seraient morts physiquement. C'est ce que Dieu leur avait dit. Et à nous, qui nous plaçons sous le sang de l'agneau, quand on est baptisé, c'est qu'à ce moment-là, on doit rester sous le sang de l'agneau et travailler à y rester de tout notre cœur avec son aide. Pour les vrais baptisés, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas d'abandon possible au risque de tout perdre. Bien sûr, Dieu va tout faire pour nous. Dieu va tout faire pour nous. On le voit d'ailleurs, reportez-vous à Apocalypse chapitre 3. On le voit d'ailleurs en ce qui concerne l'Église de Laodicée. La dernière étape de l'Église de Dieu. Là où les serviteurs de Dieu, qui vont devoir lui prouver leur fidélité à ce moment-là, vont passer par la grande détresse, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment attachés au CEP, suffisamment impliqués pour changer, pour travailler de tout cœur à leur salut. Dieu va tout faire, même pour eux. Il va leur donner une dernière chance dans la grande détresse de lui prouver qu'ils veulent lui appartenir. Mais ça sera au prix de leur vie, au prix du sacrifice de leur vie. Allez à Apocalypse 3, on va lire le verset 18 et 19. À ces gens-là, il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Et le feu, on sait que c'est les épreuves. De l'or éprouvé par le feu. Et ce feu-là, ce sera le feu de la grande détresse. « Afin que tu deviennes riche et d'acheter des vêtements blancs. » Donc, c'est la façon de faire de Dieu, la façon de vivre du Christ qu'on doit revêtir. « Afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse point, et acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Et regardez ce que le Christ dit à ces gens-là qui seront dans cette condition. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Dieu les aime encore. Et Dieu va leur donner une dernière chance de pouvoir lui appartenir et de naître un jour dans sa famille, de recevoir la vie éternelle. Aie donc du zèle et repens-toi. Pour nous, aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'on a encore un peu de temps pour se repentir et vraiment appartenir à Dieu. Regardez un peu avant pour identifier clairement cette Église-là ou ceux qui font partie de ce groupe-là, de l'Église. Versets 16 et 17, il les décrit ici. « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant pour la vérité ou pour vivre selon mes lois, je te vomirai de ma bouche. » Qu'est-ce que ça veut dire, « je te vomirai de ma bouche »?« Je te rejetterai dans la grande détresse. Je ne t'amènerai pas au lieu de sécurité. Je vais te rejeter dans la grande détresse. » Verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je connais la vérité, je suis correct. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors voici la condition dans laquelle se trouveront ces gens-là. Et Dieu va leur donner une dernière chance. Alors voyez-vous, faut que nous demeurions sous le sang du Christ. Ceux qui ont été baptisés et ceux qui ne sont pas baptisés, de continuer à aller vers le baptême avec reconnaissance, avec joie, pas de façon tourmentée ou négative, non, pas du tout. Il faut demeurer sous le sang du Christ ou vouloir se placer sous le sang du Christ pour parvenir à la vie éternelle. Et quand est-ce que ça va arriver de recevoir la vie éternelle, la récompense? C'est au retour du Christ que le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, sera accordé aux fidèles serviteurs de Dieu. Vous pourrez aller voir à Apocalypse 12, début du verset 10. Apocalypse 12, début du verset 10. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que le règne de notre Dieu. Alors, voyez-vous à quel moment le salut, la vie éternelle, sera accordé? Au moment où le règne de Dieu va commencer sur la terre. Au baptême, nous avons signé un contrat avec Dieu, dans le sang du Christ. Et on s'est engagé à le suivre, à faire toute sa volonté, à progresser, à pas se décourager, mais à compter sur lui. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse vraiment ma part pour changer. Par contre, si vous faites votre part, vous êtes en harmonie avec Dieu, ça faut le savoir. Et vous marchez dans la lumière dont je vous parle, même si vous n'êtes pas parfait. Si vous faites votre part, que vous le suppliez, comme je dois faire, parce qu'on n'est pas rendu. Tant qu'on n'est pas rendu, sorti du labyrinthe et rendu dans le royaume avec la vie éternelle, on n'est pas rendu. Mais pour s'y rendre, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, tous les encouragements dont nous avons besoin. Et si nous faisons notre part, nous sommes en harmonie avec Dieu. Et à ce moment-là, nous marchons dans la lumière, comme il nous a dit de faire. Et s'il nous arrive, ou quand il nous arrive de tomber parce que nous ne sommes pas parfaits, dans ce cas-là, le sang du Christ vous purifie, nous purifie. Regardez le passage suivant qui est tellement encourageant dans 1 Jean. 1 Jean, juste un peu avant le livre de l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 1, et nous allons lire les versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, Dieu nous a tout montré, il nous a tout appris, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Regardez comment c'est intéressant. Il se définit vraiment lui-même, il dit « Dieu est lumière ». C'est pour ça qu'il dit à plusieurs endroits, vous aussi, il faut que vous deveniez graduellement des lumières, comme le Christ, comme Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors c'est pour ça que graduellement, nous, il faut éliminer les ténèbres de nos vies. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire que volontairement nous continuons de pécher ou que nous gardons des choses mauvaises dans notre vie qui sont contraires aux lois de Dieu, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voyez-vous, c'est très simple dans le fond. C'est qu'il faut être avec Dieu de tout cœur, travailler à changer, lui demander son aide et avancer. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est ce que je vous explique aujourd'hui, si on s'applique à regarder les choses qu'on a changées, qu'on lui demande son aide, puis que graduellement on élimine ces choses-là pour les remplacer par des choses bonnes, si nous marchons dans la lumière, c'est ça marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Là, à ce moment-là, on est en rapport avec Dieu. On est sous sa protection, sous sa direction. Il dit à ce moment-là, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce qu'il va encore nous arriver de manquer notre coup. Il faut travailler à ne pas le faire, mais il nous arrive encore, on est encore humain. On n'est pas parfait. Il y a les pièges de Satan, il y a nos faiblesses humaines qui ne partent pas tout d'un coup. Mais on ne doit pas se servir de ça comme raison pour garder certaines choses. Mais si on marche dans la lumière, qu'on travaille à se purifier, et mais qu'il nous arrive, comme ça va nous arriver encore malheureusement, de manquer notre coup et de pécher à l'occasion, on demande pardon, il efface nos fautes et il nous aide à continuer. Ça, c'est tellement encourageant. À ce moment-là, on est sous son aile. À ce moment-là, on a de l'assurance devant Dieu. Une assurance joyeuse et heureuse. Comme après un jeûne. Vous savez, quand on jeûne, là, qu'est-ce qui se passe après le jeûne? On se sent pas pareil. On se sent proche de Dieu. Et parce qu'on a fait ça, parce qu'on s'est approché de lui, selon sa promesse, lui s'est approché de nous. Et on le sent. Et on a une revigoration, on a un enthousiasme, une compréhension, une foi nouvelle, un zèle nouveau, comme après un jeûne. Je fais une petite pause ici. Et je veux vous lire une petite carte. Une petite carte de fête des pains sans levain que Dieu adresse à chacun de ses serviteurs qui ont à cœur de le servir puis de marcher dans ses voies. Allez dans Proverbes chapitre 4. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Proverbe chapitre 4. Et ça m'est apparu comme une petite carte qui nous est adressée de sa part. Ça va exactement dans le sens des pains sans levain. Mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est ça. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ça, c'est la petite carte de bons souhaits et une directive que Dieu nous donne pour la fête des pains sans levain. Garde de ton cœur plus que toute autre chose. Donc, ne laisse pas entrer dans tes pensées, dans ton cœur, des choses négatives, des choses mauvaises, des choses impures. Garde de ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et si mon cœur est en train de se purifier, je suis en train d'aller vers la vie éternelle. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. » Alors voici comme la petite carte de souhait que Dieu vous adresse personnellement aujourd'hui, et qui doit être un peu notre ordre de marche pour la fête des pains sans levain au cours de la semaine que nous commençons. Bien sûr, pour le restant de notre vie, mais plus spécifiquement au cours de cette semaine, qui nous amène à réfléchir davantage à ces points-là. Et ça nous dit en même temps que notre combat chrétien, il est d'abord un combat intérieur. Chacune de nos luttes commence dans notre cœur qui est tortueux au point de départ et qu'on doit maîtriser avec son aide. Chacun de nos combats commence dans la pensée. Parce qu'écoutez, les actions et les paroles mauvaises qui sortent ensuite, c'est simplement la dernière étape, ça. C'est simplement le résultat ou le symptôme de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, absolument. Dieu veut qu'avec son aide, il nous voit faire le travail intérieur dont je vous ai parlé tantôt, quand il a dit « travaillez à votre salut ». Il veut nous voir être en train de le faire. Il veut nous voir faire un changement profond, un changement de cœur, pas juste de surface, pas juste changer des actions. Sinon, si on se limite à des gestes extérieurs, mais qu'on demande pas à Dieu de nous changer le cœur et qu'on n'y travaille pas, c'est un semblant de conversion. C'est pas une conversion profonde. Et on doit aller plus loin que ça. On doit aller plus loin que ça. Parce qu'avec Dieu, comme M. Appartien nous a déjà expliqué, c'est tout ou rien. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et je vais plus loin. Vous savez que dans le royaume, il n'y aura pas de menteur. Il n'y aura pas d'ivrogne, il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas de voleur, il n'y aura pas d'hypocrite, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il nous aura rendus parfaits si nous sommes en train actuellement de développer ces traits de caractère qu'il veut nous voir développer. Ce que Dieu fait actuellement, à travers tout ce que nous avons à vivre, et Dieu se sert de chaque élément que nous vivons pour nous préparer. Dans tout ce que nous vivons actuellement, Dieu développe en nous son caractère spirituel. Et ça ne peut pas se limiter à des gestes extérieurs. On doit même apprécier les obstacles qu'il nous donne de franchir et les épreuves qu'on a à rencontrer parfois. C'est pas facile, mais ça fait partie de notre entraînement. Il faut que ce soit de cœur, il faut que ce soit réel, profond, senti, et que ce soit durable vers l'éternité et dans l'éternité. Après. J'ai beaucoup aimé une définition du vrai caractère selon Dieu que j'ai vue à un moment donné. Le caractère selon Dieu, c'est ce que l'on fait quand personne ne nous voit. Je répète, le vrai caractère selon Dieu qu'on doit développer, c'est ce que l'on fait quand personne ne nous voit. C'est l'intimité avec Dieu, un peu comme on a eu à la Pâque et à la soirée mémorable, juste nous et Dieu. Et lui voit à travers nous, comme il voit à travers d'un courant d'air. Il sait exactement qu'est-ce qu'il y en est et ce qu'on a besoin. Maintenant, comment les rachetés peuvent-ils réussir à traverser l'immense labyrinthe de la vie avec ses obstacles, ses demi-tours, ses difficultés, ses hauts, ses bas, ses moments de découragement? Et comment peuvent-ils parvenir au royaume et à la vie éternelle? Première étape, c'est d'abord de choisir de le faire, de déterminer de le faire et de tenir à le faire, à marcher fermement dans les voies de Dieu. Comme David a mentionné, allez dans le psaume 57, s'il vous plaît. Psaume 57, il y a un passage qui nous aide dans ce sens-là, parce que David exprime à Dieu quelque chose qui s'applique à nous concernant ce qu'on doit faire pour réussir à traverser le labyrinthe de la vie, puis arriver à la vie éternelle. Alors, on doit marcher fermement dans les voies de Dieu. Ça commence par un choix. Et tenir le choix ensuite, quelles que soient les circonstances. Et deuxièmement, c'est de compter sur Dieu. C'est seulement grâce à lui qu'on pourra y arriver. Compter sur Dieu, constamment, en toutes circonstances, quelles qu'elles soient, maintenant ou dans le futur. Et vous savez, c'est par son Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Et le Saint-Esprit de Dieu, j'aime ça à le comparer à un GPS. le Saint-Esprit de Dieu, c'est le GPS qui nous guide dans le labyrinthe de la vie. Psaume 57, regardez la première partie du verset 8, ce que David dit à Dieu. « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. » En d'autres termes, ça veut dire ceci. « Dieu, j'ai décidé d'être ferme dans tes voies. J'ai décidé d'être ferme dans tes voies. » Et il a déterminé d'être ferme. Comme nous, quand Dieu nous appelle, il faut déterminer d'être ferme et ensuite continuer tout au long du labyrinthe de notre vie, pour ainsi dire. Lisons le verset 2, 2 à 4. On voit ce que c'est le labyrinthe. David le décrit en ces mots. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. » C'est ce qu'on doit lui dire souvent. Hein? « Car en toi, mon âme cherche un refuge. » Et dans certaines circonstances, on se rend bien compte qu'il est notre seul refuge. Il doit être toujours notre refuge. Mais il y a certaines circonstances qui nous font réaliser qu'on ne peut pas compter sur personne d'autre, ni sur aucune circonstance, sinon sur lui. Et c'est pas mauvais que ça arrive parce que ça nous fait réaliser, comme David dit, que c'est toi, Dieu, qui est notre seul refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Et vous savez quoi? Il ne demande pas mieux. Il cherche à agir en votre faveur et en ma faveur. Si je le cherche et si je décide de faire tout mon possible avec son aide pour faire sa volonté, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. C'est tellement encourageant. Et c'est la même chose pour nous actuellement. Comme David, il faut garder les yeux sur le but. Comme Abraham, c'est écrit dans la Bible qu'Abraham avait les yeux sur quoi? Malgré les épreuves qu'il a eues, il a gardé les yeux sur la cité à venir, la Jérusalem céleste. Et on doit garder les yeux sur Dieu et aller jusqu'au bout du labyrinthe, tenir le coup. Le fameux persévérer dont il est question à tellement de reprises dans la Bible, aller jusqu'au bout du labyrinthe. En nous souvenant, puis ça nous encourage, en nous souvenant de tous les miracles qu'il a fait pour chacun de nous dans nos vies, à partir du premier miracle de nous avoir révélé la vérité, de nous avoir donné de comprendre et de nous avoir aidé à avancer. Il y a plein de miracles là, le long de la route. Et quand on se souvient de ces miracles-là, ça nous aide parce que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et s'il a fait tant de choses pour vous et pour moi jusqu'à maintenant, il va encore en faire jusqu'au bout. Formidable. Dieu guide ses rachetés. Dieu guide ses rachetés qui sont persévérants, qui tiennent le coup, à travers le labyrinthe de la vie, à travers les circonstances qu'il permet, je reviens là-dessus, je l'ai mentionné tantôt, et que nous ne comprenons pas toujours sur le coup. Parfois, on comprend seulement après coup. Pensez au chemin parcouru depuis que Dieu vous a appelé. Même ceux que Dieu a appelés récemment, là, pensez au chemin que Dieu vous a déjà donné de parcourir et à toutes les choses qu'il vous a révélées depuis peu de temps. Et ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, pensez à tout ce que Dieu vous a révélé, à tout ce qu'il a fait depuis votre appel, alors que vous êtes encore là devant lui à célébrer ses fêtes aujourd'hui. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Ça nous a été donné et il nous a gardé jusqu'à aujourd'hui. On peut lui dire de grand merci, de grand merci. Mais ça vient de lui. Mais Dieu aussi permet des obstacles, permet des épreuves. Et il va le faire encore. Pourquoi? Pour nous fortifier, pour nous préparer. Mais il permet ces épreuves-là ou ces obstacles-là avec la promesse de nous donner toute l'aide nécessaire. Qu'est-ce que le Christ a promis, hein? Jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Et il ne nous mène pas vers le royaume par le chemin le plus court, ni par le chemin le plus facile, ni par le chemin le plus large. Au contraire, je reviens à ça, Dieu permet des épreuves. Et je me rappelle un homme à un moment donné, il y a plusieurs années, qui était très malade et qui était à l'hôpital, qui souffrait beaucoup. Et quand je l'ai vu, j'ai été vraiment touché parce que j'ai vu que cet homme-là était vraiment un serviteur de Dieu qui voyait l'importance des choses que Dieu permettait dans sa vie. Il m'a dit qu'il était très reconnaissant à Dieu de ce qui lui arrivait. Parce que il m'a dit, ça me rapproche de Dieu et ça m'aide à comprendre beaucoup plus de choses que je ne comprenais auparavant. C'est pour ça que je vous mentionne les choses dans ce sens-là. Dieu permet des épreuves dans des buts très précis. Il permet des obstacles. Il permet qu'on rencontre de l'opposition. Il permet qu'on ait des choix difficiles à faire. Il permet qu'il y ait des irritants. Pourquoi? Pour nous entraîner, pour nous raffermir, pour nous solidifier dans la foi, de mettre notre foi en lui. Je me rappelle d'un autre homme dans l'Église aussi qui a beaucoup souffert et qui m'a dit à un moment donné, sans cette souffrance-là, j'étais en train de m'éloigner de Dieu. Voyez-vous comment Dieu se sert de toutes choses et qu'il prend soin de ses enfants, même dans des circonstances extrêmement pénibles? Il y a d'autres grands défis qui approchent, bien sûr. Mais si on est capable de passer à travers des défis plus petits, avec l'aide de Dieu, on va savoir qu'on pourra passer à travers des défis plus grands, encore avec l'aide de Dieu, qui ne change jamais. Vous pourrez aller lire Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5, il est écrit ceci. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, sur le plan physique, là, si j'ai à courir avec d'autres êtres humains puis ça me fatigue, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Oh. Alors Dieu dit ici, vous avez des épreuves, oui, mais si vous regardez simplement vers vous, en réalisant que vous n'êtes pas capable, mais que vous en restez à ce point, sans me demander mon aide, ben vous êtes désolé, parce que vous fatiguez et vous ne voyez pas la solution. Mais Dieu nous dit après ça qu'il y aura des choses plus difficiles à venir, mais que si on a déjà commencé à apprendre à compter sur lui, à vaincre les petites choses, à passer à travers les épreuves plus petites, quand les plus grandes vont venir, sa même aide va être là avec plus d'intensité, et on pourra passer à travers. Et regardez ce qu'il dit après. Et si tu ne te crois en sûreté que dans un pays paisible, comme nous on est maintenant, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Donc, quand nous serons dans d'autres circonstances plus bouleversées, où on aura vraiment besoin de l'aide de Dieu, si j'ai développé de lui demander et de l'utiliser avec reconnaissance et avec joie, il va m'aider à passer à travers les choses plus difficiles qui viennent. Je reviens à ça, dans le labyrinthe de la vie, nous voyons les choses horizontalement. Sur le plan humain, nous voyons d'abord le mur de maïs, nous voyons le long des tours à faire, nous voyons les obstacles, ce qui peut sembler sans issue, sans réponse. Mais si nous comptons totalement sur Dieu, si nous nous efforçons avec son aide de marcher dans ses voies, qu'on garde le contact avec lui, qu'est-ce qui arrive? On développe une assurance. Parce que l'assurance, elle vient de lui. On est proche de lui à ce moment-là. Et nous savons à ce moment-là que lui va nous conduire jusqu'à terme. Que lui va nous conduire jusqu'au royaume. Formidable. Voyez-vous, quand tout bascule autour de nous, quand nous ne comprenons pas ce qui arrive ou ce qui nous arrive ou ce qui arrive dans le monde, on voit actuellement dans le monde, il y a des événements qu'on n'avait pas prévus, qui ont été complètement imprévus, qui ont saisi soudainement l'ensemble de l'humanité. On ne comprend pas comment ça va se développer. On sait comment ça va finir parce que Dieu nous l'a révélé. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas là-dedans et on doit s'en remettre à Dieu, lui faire confiance et avoir l'esprit paisible. Pour ça, je vous dis que c'est vers lui qu'on doit se tourner, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que je vous rappelle que quand tout bascule autour de nous, quand nous ne comprenons pas ce qui arrive autour de nous, quand nous n'avons pas non plus de réponse à nos questions, et il ne faut pas être traumatisé et paniqué. Quand certains même nous abandonnent, quand notre visibilité, elle est réduite, ou même qu'elle est nulle, par un mur autour de nous, et par des murs autour de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Je reviens encore à ça, et c'est la base de mon message aujourd'hui aussi, c'est de nous tourner vers Dieu et de demander son aide. Parce que je vais vous dire une chose, et je m'inclus là-dedans. Vous savez, le courage humain, c'est beau. C'est beau de voir le courage humain. Mais le courage humain, il a ses limites. Le courage humain, il a ses limites. Comme l'être humain a ses limites. Mais, et ça j'insiste là-dessus, et c'est là le grand encouragement, mais le courage du Christ qui vit dans ses rachetés, ce courage-là, lui, il est sans limite. Paul a dit, rappelez-vous, Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est le Christ, le oint de Dieu, celui qui a donné sa vie dans un sacrifice inestimable pour nous, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés quand on se repent, qu'on reçoive son Saint-Esprit et qu'on ait accès à la vie éternelle et qu'on fasse partie de ses rachetés. L'année sacrée vient tout juste de commencer. C'est le temps pour vous et moi de nous fixer des buts, de dire à Dieu, je détermine avec ton aide de continuer à me purifier, de soutenir ton œuvre, encourager tes enfants, à aider les autres dans la mesure du possible, à prier pour eux, à les aimer, à les servir dans la mesure du possible encore aussi. Alors, le temps est là pour nous, venu, pour nous fixer des buts déterminés et définitifs, pour nous améliorer, pour travailler à vaincre certaines faiblesses qu'il nous reste à vaincre. Il vous en reste sûrement, parce que je me base sur moi-même pour ça, il m'en reste à régler, à éliminer des faiblesses. Mais avec son aide, on peut y arriver. Alors, c'est pour ça que je vous dis, continuons avec zèle à avancer spirituellement, en comptant sur Dieu, à nous purifier tout au long de l'année qui vient. Dans le fond, à vivre durant toute l'année dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Reportez-vous, s'il vous plaît, pour un dernier verset au livre d'Apocalypse, le 22e chapitre. Le livre de l'Apocalypse, le 22e chapitre, à la toute fin. En fait, c'est la dernière page, Apocalypse 22. Et nous allons commencer à lire le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Et ce qui est fascinant, puis encourageant à ce qui nous concerne, c'est que le temps dont il est question ici, nous entrons, nous, à ce temps-ci de l'histoire, dans ce temps, dans cette période de temps, qui est fascinante, qui est inconfortable, mais qui est fascinante, parce que la délivrance approche. Il dit, « Ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. » Et ça, ça va continuer. L'état du monde actuel va continuer en s'empirant encore. On le sait. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste, voici qu'il s'adresse à ses appelés, à ses rachetés. Et que le juste pratique encore la justice. Voilà notre responsabilité de vivre constamment selon l'esprit de la fête des pains sans levain. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. C'est le Christ qui parle. Et ma rétribution est avec moi. Les récompenses. Non seulement la vie éternelle, mais les récompenses. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Christ dit, je suis le commencement et la fin. Le Christ est le point central du plan de Dieu, la base du plan de Dieu, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et regardez le verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe, ceux qui changent, qui se purifient avec son aide, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » L'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Et d'entrer par les portes de la ville, à Jérusalem, quand le Christ sera là pour régner sur la terre. Formidable journée des pains sans levain aujourd'hui. Vivons honnêtement et de tout cœur la fête des pains sans levain. C'est notre démarche, c'est notre cheminement vers le royaume de Dieu et vers la vie éternelle. Bonne fin de sabbat.